britannique.
Et des interviews.
Tu parlais à propos des manques de volontaires. Que fais-tu pour dépasser ces obstacles?
Très très bonne question.
Les nouveaux reporters, c'est vendredi et samedi à 18h sur CILS FM 107,9.
Bonjour à tous les francophones et francophiles de Victoria. Bienvenue dans cette édition du débrief pour les 24 et 25 mai. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie pour la prochaine heure. Votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM est sur le point de commencer. Bonne émission à tous. C'est 17 degrés actuellement à l'aéroport de Victoria. On prévoit également du soleil demain jeudi avec un maximum de 20 degrés. Et je souligne d'entrée de jeu que nous aurons plus tard dans l'émission une interview avec la professeure Dominique Gay qui enseigne au Oak Bay High School à propos d'un événement qui s'est tenu aujourd'hui à UVic, l'Université de Victoria. Français pour l'avenir, French for the future. C'est une interview que je mènerai en collaboration avec mon collègue Adrien Blanc qui anime à l'antenne de CILS FM l'émission Rendez-vous ainsi que l'émission Nouveau Reporter. Donc restez à l'écoute pour cette interview qui fera le bilan de Français pour l'avenir édition 2017. Alors, on revient bien sûr en ouverture de revue de presse internationale sur l'attentat terroriste de Manchester. On va tout de suite dans le journal La Presse où se trouve une dépêche de l'agence France Presse. Manchester, la police enquête sur un réseau. La police britannique a affirmé mercredi enquêter clairement sur un réseau, écartant l'hypothèse selon laquelle le kamikaze britannique d'origine libyenne qui a tué 22 personnes à Manchester ait pu agir seul. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique, dans lequel des dizaines de personnes ont également été blessées à la sortie d'une salle de concert, était plus élaboré que d'autres et il semble probable que l'assaillant n'ait pas agi seul, a expliqué dans la matinée la ministre de l'Intérieur britannique Amber Rudd. Le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins, a ensuite confirmé en début d'après-midi enquêter clairement sur un réseau autour du kamikaze Salman Abedi, étudiant de 22 ans, dont la ministre de l'Intérieur britannique a précisé qu'il était connu des services de renseignement. L'auteur de l'attentat est sans doute passé par la Syrie, selon la police et le ministère de l'Intérieur. Trois hommes ont été arrêtés dans la nuit au sud de Manchester après l'arrestation mardi d'un homme de 23 ans dans la même zone. Ils se trouvaient tous quatre en garde à vue mercredi, a précisé le commissaire de police Ian Hopkins, et des perquisitions étaient en cours dans le centre de la ville. On a une intéressante analyse de la part du journaliste Jean-Pierre Perrin dans le portail de Mediapart.fr, un tournant dans la stratégie de l'État islamique. L'attentat de Manchester, écrit-il, après celui de Londres, est sans doute le signe que l'État islamique a compris que la base territoriale dont il disposait, à cheval sur l'Irak et la Syrie, était amenée à disparaître. Dès lors, il ne reste plus à l'État islamique que les attentats. En 2010, rappelle-t-il, Al-Qaïda avait déjà évolué dans cette direction. Dans la revue Inspire, le premier magazine djihadiste en ligne rédigé intégralement en anglais, on y indiquait comment trouver des modes d'emploi pour fabriquer des bombes artisanales, crypter ses communications ou produire du poison. C'est probablement la proximité du Ramadan, poursuit le journaliste de Mediapart, qui a fait agir lundi soir le kamikaze de Manchester, car le terroriste avait préconisé d'agir en particulier à cette occasion. Cette nouvelle stratégie du djihadisme connaît un certain succès, mais ce n'est sans doute pas celui que Daesh espérait. Selon les chiffres de l'État islamique publiés dans son magazine en anglais Dabiq, en novembre 2015, 47 attaques meurtrières officiellement revendiquées ont été commises hors d'Irak et de Syrie. Réparties dans 14 pays, elles ont provoqué la mort de 1212 personnes et des milliers de blessés. différence avec Al-Qaïda, l'État islamique, qui au départ est un phénomène spécifiquement irakien, mais est vite devenu un modèle transnational, a toujours voulu administrer un vaste espace pour y édifier un califat, pour avoir une base militaire, mais aussi un territoire permettant le hijra, le retour en terre d'islam des musulmans vivant en terre de mécréance, selon ses propres termes. C'est le sens des formules comme « Bakiya, nous resterons », systématiquement employées par les djihadistes. Si Mossoul et Raqqa tombent en Irak, ce sera tout un pan des ambitions de l'État islamique qui s'effondrera avec elle. Dès lors, il ne restera plus à cette organisation que les opérations extérieures, c'est-à-dire les attentats. Donc, je rappelle le titre de cette analyse proposée par Jean-Pierre Perrin dans le site Mediapart.fr, un tournant dans la stratégie de l'État islamique. Et dans le monde diplomatique, à présent, cette autre analyse qui date, elle, de décembre 2015, mais qui demeure très, très d'actualité, ça s'intitule « Genèse du djihadisme ». C'est signé par Nabil Mouline. Effort d'élévation spirituelle, le djihad peut aussi signifier le combat contre les infidèles et les hypocrites. Ceux qui s'en réclament aujourd'hui pour justifier une conduite ultra-violente s'inspirent d'une idéologie rigoriste issue d'une double filiation. Premièrement, les frères musulmans, mais aussi le salafisme wahhabite diffusé depuis l'Arabie saoudite. Phénomène multidimensionnel, écrit le journaliste du Monde diplomatique, le djihadisme est avant tout une idéologie globale à la faveur d'un bricolage intellectuel qui résulte d'un détournement de concepts, de symboles et d'images d'origine musulmane ou européenne. Ces dépositaires prétendent offrir aux croyants un nouveau départ, une nouvelle identité et un nouveau mode de vie pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. En somme, une représentation du monde qui donne la certitude d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, le groupe d'élus chargé par Dieu de rétablir la vraie religion et de réunifier l'Oumma, soit la communauté des croyants. À l'instar d'autres idéologies extrémistes, le djihadisme, écrit le Monde diplomatique, puise ses racines dans le désenchantement provoqué par la Première Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire ottoman, l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk, la domination occidentale et la montée en puissance de nouvelles formes de socialisation ont engendré un véritable désarroi dans certains milieux musulmans. Pour sortir de cette crise existentielle, certains militants, lettrés et ulémas, soit les juristes et théologiens musulmans, ont vu dans l'islam l'unique remède. Plusieurs projets plus ou moins aboutis ont apparu ainsi entre les deux guerres mondiales. Le plus important d'entre eux est sans doute celui des frères musulmans. Cet article indique aussi que l'Organisation de l'État islamique a tiré les leçons des échecs d'Al-Qaïda, son prédécesseur. Et à propos du wahhabisme, le journaliste écrit que pour tracer des frontières symboliques et réelles entre la religion authentique et les fausses religions, les tenants du wahhabisme ont développé le principe de l'allégeance et de la rupture. Le croyant doit une fidélité et une loyauté absolue à tous les membres de la communauté. En revanche, les relations avec les mécréants, comme on les appelle, se limitent théoriquement à la conversion, la soumission ou la guerre. Dans cette logique, les musulmans qui habitent les territoires impies doivent tôt ou tard accomplir une hijra, soit un exode vers la demeure de l'islam pour faire le plein de forces sacrées avant de repartir au djihad. Tirant les conséquences des échecs d'Al-Qaïda, l'Organisation de l'État islamique adopte une démarche glocale, c'est-à-dire qu'elle développe sa capacité à penser globalement et à agir localement. Les dirigeants de l'organisation, qui se considèrent à leur tour comme les nouveaux élus, ont préféré tout d'abord se doter d'une plateforme au cœur même du monde arabo-musulman et assurer leur autonomie financière avant d'envoyer leurs soldats à l'assaut du monde. Pour ce faire, ils ont suivi un plan en trois étapes qui est détaillé dans un opuscule publié il y a une dizaine d'années. En des termes simples et directs, cet opuscule explique comment les djihadistes peuvent profiter des événements et des circonstances sur le plan local ou international pour mettre la main sur un territoire. Donc voilà, cette analyse publiée en 2015 dans le Monde diplomatique, elle a été repostée sur le portail du Monde diplomatique, monde-diplomatique.fr ces derniers jours, suite aux terribles événements de Manchester. On poursuit cette revue de presse internationale, on se dirige dans les colonnes du journal Le Monde. On reste tout de même au Moyen-Orient, le grand flou de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien. Le président américain, qui n'a cessé de mettre en scène sa proximité avec Israël, a achevé mardi sa visite sans préciser ses intentions pour parvenir à la paix. C'est par le journaliste Piotr Stomar dans Le Monde. Beaucoup de pompe et d'optimisme, mais rien de concret, écrit le journaliste. La visite de 28 heures de Donald Trump en Israël, agrémentée d'un bref passage en Cisjordanie, s'est conclue mardi 23 mai, comme elle avait commencé, dans le flou. Le président des États-Unis a multiplié les gestes symboliques destinés à ravir ses hôtes israéliens. Il s'est incliné devant le mur des lamentations. Il a effectué la traditionnelle visite au mémorial de Yad Vashem pour rendre hommage aux victimes de l'Holocauste, mais il n'a dessiné ni méthode, ni calendrier, ni horizon pour permettre de relancer des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le chef de l'État américain n'a jamais fait référence à une solution à deux États durant sa visite, ni à la colonisation israélienne, encore moins à l'occupation, dont le 50e anniversaire sera commémoré en juin. En revanche, il a usé jusqu'à satiété du mot « paix », un terme consensuel qui ne fâche personne. Le discours de M. Trump poursuit cet article du Monde. Au musée d'Israël, point d'orgue de sa visite était très attendu mardi. Il n'a livré aucune surprise à la grande satisfaction du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le locataire de la Maison-Blanche a rendu un long hommage au peuple juif et à ses liens millénaires avec la ville de Jérusalem, assurant que son administration serait toujours aux côtés d'Israël. Donald Trump s'est félicité de l'entretien qu'il avait eu dans la matinée avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Bethléem, en Cisjordanie. Je peux vous dire que Mahmoud Abbas est prêt à parvenir à un accord de paix, a-t-il assuré. Faire la paix ne sera pas facile, nous le savons tous. Les deux parties devront faire face à des décisions difficiles. Donc voilà, un voyage qui se termine dans le flou. C'est ce qu'indique cet article du journal Le Monde, signé par le journaliste Piotr Smolar. Et Donald Trump, encore lui, cette fois au Vatican, c'est dans le fil de l'agence France Presse en date du 24 mai. Le pape François demande à Trump d'être un homme de paix. Le président américain Donald Trump a été reçu en audience mercredi matin au Vatican par le pape François, qui l'a exhorté à être un homme de paix et à attirer son attention sur le changement climatique. Cette visite marquait la troisième étape de la tournée internationale de 9 jours du chef d'État américain après des déplacements en Arabie Saoudite, en Israël et en Cisjordanie. Mais si les discussions avec les dirigeants saoudiens et israéliens se sont avérées cordiales, la rencontre du chef de l'Église catholique romaine et d'un homme marié à 3 reprises et adepte du langage direct s'annonçait plus difficile. À plusieurs reprises, le pape argentin a dénoncé les positions défendues par Donald Trump, jugeant par exemple que construire des murs, comme celui que le président américain veut ériger à la frontière du Mexique, au détriment de ponts, n'était pas une attitude chrétienne. La volonté du président américain d'assouplir les normes environnementales et ses doutes sur la responsabilité humaine quant au réchauffement climatique vont également à l'encontre des positions défendues par le pape. Après avoir posé de manière crispée devant les photographes, les deux hommes ont discuté en tête-à-tête pendant une demi-heure au palais apostolique en présence de leur seul traducteur. Puis ils ont procédé à un échange de cadeaux. Le pape a offert à son hôte une médaille représentant un olivier, symbole de la paix. Le pape François a également remis au président américain plusieurs de ses écrits, dont son encyclique de 2015 consacrée à la préservation de l'environnement et son message de début d'année intitulé « La non-violence, style d'une politique pour la paix ». Et pour ajouter une note à ce segment sur le Moyen-Orient, je vous signale un podcast paru sur le portail TheIntercept.com. C'est en anglais, mais c'est fort intéressant. Donc, une analyse de la situation au Moyen-Orient et de la récente visite de Donald Trump en Arabie Saoudite. Je vous donne le titre « Donald Trump and his League of Extraordinary Despots ». Donc, le président Trump et sa ligue de despotes extraordinaires. C'est sur le site TheIntercept.com, chaudement recommandé pour vous, si vous avez un moment de libre aujourd'hui ou au cours des prochains jours. On reste au Moyen-Orient. Algérie, Abdelmadjid Tebboune a été nommé Premier ministre. Abdelmadjid Tebboune est le nouveau Premier ministre en Algérie à la suite d'un remaniement gouvernemental attendu après les élections législatives remportées par le Front de Libération Nationale, le FLN, au pouvoir depuis l'indépendance dans les années 60, a rapporté l'agence de presse nationale APS. Cet ancien ministre du Travail a été nommé par la présidence en remplacement d'Abdelmalek Selal. Ni APS ni la radio publique algérienne n'ont fourni de précisions sur le nouveau gouvernement. En France maintenant et dans les colonnes de Ouest-France, Macron veut prolonger l'état d'urgence et une nouvelle loi antiterroriste. Après l'attentat de Manchester, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi vouloir prolonger jusqu'au 1er novembre 2017 l'état d'urgence instauré depuis les attentats de novembre 2015 et il souhaite une nouvelle loi contre la menace terroriste qui n'a jamais été aussi élevée, dit-il. Lors d'une réunion du Conseil de défense, la deuxième depuis son élection, Emmanuel Macron a annoncé qu'il demanderait au Parlement de prolonger l'état d'urgence qui devait arriver à échéance le 15 juillet jusqu'au 1er novembre. L'état d'urgence décrété fin 2015 après les attaques djihadistes du Bataclan et du Stade de France, les plus meurtrières jamais commises sur le sol français, a déjà été prolongé à 5 reprises durant le mandat de François Hollande. Si la mesure est votée et va à son terme, la France aura connu 23 mois d'état d'urgence ininterrompu, un record de tous les temps. L'annonce intervient 2 jours après l'attentat de Manchester, on l'a dit, qui a fait 22 morts, dont des enfants, à la sortie d'un concert d'Ariana Grande. On se déplace au Moyen-Orient, mais on reste dans les colonnes de Ouest-France. Taïwan, la justice rend une décision historique en faveur du mariage gay. La justice taïwanaise a rendu mercredi une décision historique sur le mariage gay qui va permettre à l'île de devenir le premier territoire asiatique à légaliser les unions entre personnes de même sexe. Une décision historique, la Cour constitutionnelle a estimé que la disposition du Code civil affirmant qu'un contrat de mariage ne pouvait être conclu qu'entre un homme et une femme violait les principes de la Constitution, garantissant la liberté de mariage et l'égalité entre les citoyens. La haute juridiction du pays donne 2 ans au gouvernement pour mettre en œuvre cette décision qui permet donc de légaliser les unions entre personnes de même sexe. Depuis l'arrivée au pouvoir en mai 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, rapporte cet article de Ouest-France, le mariage pour tous avait le vent en poupe à Taïwan. Au Parlement, un projet de loi amendant le Code civil avait franchi un premier obstacle en étant voté en première lecture, mais l'île compte également une frange très conservatrice qui, redoutant que le mariage pour tous ne détruise les valeurs de la famille, a organisé de grandes manifestations hostiles à toute évolution législative sur le sujet. Venezuela, Maduro lance le processus d'assemblée constituante. C'est toujours dans les colonnes de Ouest-France. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a lancé ce mardi le processus contesté d'assemblée constituante, contesté par l'opposition. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a lancé mardi le processus d'assemblée constituante, fortement contesté par l'opposition, alors que les manifestations émaillées de violence ont déjà fait plus d'une 50aine de morts en près de 2 mois. Devant des milliers de sympathisants arborant des t-shirts et des casquettes rouges, le chef de l'État a signé le décret fixant les modalités d'élection des membres de cette assemblée appelée à rédiger une nouvelle constitution pour le Venezuela, une manœuvre selon l'opposition pour s'accrocher au pouvoir. Et on va terminer avec un article sur l'Organisation mondiale de la santé. On demeure dans les colonnes du journal Ouest-France. On a un nouveau dirigeant à l'OMS et le titre de cet article, c'est « Qui est Tedros, le premier Africain à la tête de l'OMS ?» Premier Africain nommé mardi à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus espère y reproduire le succès qu'il a connu dans la réforme du système de santé de son pays. Tedros Adhanom Ghebreyesus, âgé de 52 ans, s'est engagé pendant sa campagne à réformer l'agence onusienne. L'OMS est en effet une agence de l'ONU, très critiquée pour sa gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, épidémie qui avait fait plus de 11 000 morts, rappelle cet article de Ouest-France. Nous vivons dans un monde en mouvement et l'OMS doit être capable de s'y adapter, avait-il déclaré alors en présentant son programme, évoquant ainsi les nouvelles menaces sanitaires engendrées par la mondialisation, le réchauffement climatique et le mode de vie sédentaire. Donc c'est dans le journal Ouest-France, qui est Tedros, le premier Africain à la tête de l'OMS. C'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour les 24 et 25 mai. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuivra dans quelques instants avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, édition des 24 et 25 mai. On va passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On ouvre avec un article paraissant dans le journal Le Devoir sous la plume de Marie Vastel. C'est intitulé « Des familles exaspérées menacent de boycotter l'enquête nationale ». Marie Vastel est correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa. Elle écrit « L'enquête nationale sur les femmes autochtones n'a pas encore officiellement commencé que déjà les critiques fusent de toutes parts et des familles de victimes menacent de la boycotter. Les commissaires appellent à la patience tout en reconnaissant qu'elles auront besoin de plus de temps pour abattre le travail. John Fox a perdu sa fille Cheyenne il y a 4 ans. Notre appui à l'enquête est tombé à zéro, a-t-il déclaré mardi au Parlement à Ottawa en menaçant de faire barrage aux audiences de la commission. John Fox a plus tard parlé de boycotter plutôt les rencontres, car les 5 commissaires sont en train de tourner toute l'enquête en dérision et nous n'allons pas le tolérer, a-t-il scandé. Les familles s'impatientent en voyant que leurs audiences publiques débuteront à Whitehorse lundi prochain pour ne reprendre qu'à l'automne. Cet été, la commission entendra des experts tandis que les familles rencontreront des comités en privé. Les communautés réclament également que la commission incorpore leurs coutumes et traditions lors des rencontres. Le processus est très bureaucratique. On ne peut pas écouter les familles en imposant un état d'esprit colonial. Vous les revictimisez, a reproché Jocelyne Yatal, une ancienne résidente de la réserve d'Attawa-Piscac, qui affirme avoir subi des agressions sexuelles dès l'âge de 4 ans. On dirait un processus judiciaire, a renchéri John Fox. Ce n'est pas ce qu'on désirait. Ils ne sont pas seuls à être déçus d'ailleurs. D'ailleurs, 10 mois après le lancement de l'enquête nationale, poursuit la journaliste Marie Vastel, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, déplore que la commission ne communique pas suffisamment avec les familles de victimes et de survivantes, dont certaines attendent toujours de pouvoir raconter leur histoire au commissaire. La semaine dernière, l'Association des femmes autochtones du Canada exprimait les mêmes critiques. Michel Audette reconnaît que la commission a eu de la difficulté à partager tous les bons coups qui ont été faits depuis le 1er septembre dernier. Rencontres préparatoires avec des familles, embauches, mises sur pied de comités conseillers de grand-mères pour connaître les traditions de chaque région. Le tir sera corrigé, promet-elle. Mais elle ne s'inquiète pas de voir la commission échouer. La position n'est pas homogène, dit-elle, en rapportant qu'outre les critiques, il y a aussi en privé beaucoup d'encouragement et d'appels à continuer. Reste que les commissaires se préparent à demander plus de temps à Ottawa, poursuit Marie Vastel dans cet article que vous trouverez dans le journal Le Devoir. Sous le titre « Des familles exaspérées menacent de boycotter l'enquête nationale ». Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, rappelons-le, dont la commissaire est Michel Audette. On va s'attarder dans les colonnes du journal Le Devoir encore un peu et poursuivre avec Marie Vastel qui a également signé récemment un portrait des candidats conservateurs dans la course à la chefferie qui déterminera le successeur de Stephen Harper. Marie Vastel écrit « Les conservateurs seront samedi prochain. Lequel des 13 candidats à la succession de Stephen Harper sera sacré leur prochain chef ?» Le Devoir les a interrogés tour à tour au fil des dernières semaines sur 6 sujets. Le retour à l'équilibre budgétaire, l'immigration, le port du niqab, la lutte contre les changements climatiques, le rôle du fédéral en culture et le droit à l'avortement. Tous se sont prêtés au jeu, sauf Pierre Lemieux et Aaron O'Toole, dont les équipes n'ont pas répondu aux demandes du Devoir. Ça commence avec le meneur Maxime Bernier, qui est le très probable successeur de Stephen Harper. En immigration, par exemple, il veut ramener les seuils d'accueil aux moyennes des années du gouvernement de Stephen Harper, soit environ 250 000 immigrants par année, contre 300 000 actuellement. « Je ne veux pas changer le système de sélection des immigrants », a-t-il soutenu en interview avec Marie Vastel. Sur la question du port du niqab, Maxime Bernier demeure un peu évasif. Il se contente de dire que lors du serment de citoyenneté, la demandeur doit le faire à visage découvert. Dans le dossier de l'environnement, Maxime Bernier déclare que les provinces ont déjà pour la plupart un prix sur le carbone et je n'imposerai pas une deuxième taxe sur le carbone au niveau fédéral, dit-il. Maxime Bernier serait d'accord pour créer des incitatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en élargissant le crédit d'impôt en recherche et développement pour qu'il englobe aussi le développement de nouvelles technologies et d'énergie verte. Investir en culture. Maxime Bernier ne semble pas vraiment porter sur l'investissement en culture. Les budgets actuels du fédéral sont satisfaisants, dit-il, et seraient renouvelés. Donc, on peut penser au budget de Radio-Canada, par exemple. Débat sur l'avortement, Maxime Bernier répond « Je ne dirai pas ma position personnelle parce que je ne veux pas teinter le parti. Il ne rouvrirait pas le débat s'il était élu, mais permettrait à tout député de le faire. Le vote serait libre. » Oui, a-t-il déclaré au Devoir, il y a de fortes chances que le débat sur l'avortement soit rouvert, mais ça ne sera pas le gouvernement qui va le rouvrir, a-t-il dit. Marie Vastel a interviewé les autres candidats à la succession de Stephen Harper. Donc, si vous vous intéressez au pedigree de ces autres candidats, c'est dans l'article intitulé « Portrait des candidats conservateurs » par Marie Vastel dans le journal Le Devoir. On poursuit cette revue de presse nationale. On va se déplacer dans les colonnes du journal La Presse. Trudeau à l'OTAN, l'attentat de Manchester pourrait bousculer l'ordre du jour. L'attentat meurtrier à Manchester fait revenir le fléau du terrorisme à l'avant-plan au moment où le premier ministre Justin Trudeau se prépare pour des rencontres de haut niveau avec des alliés outre-mer. Justin Trudeau s'envole aujourd'hui, mercredi, pour Bruxelles pour le sommet des dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, le premier sommet du genre depuis le début de la présidence de Donald Trump aux États-Unis. Le premier ministre Trudeau se rend ensuite à Taormine, en Italie, où se tiendra les deux jours suivants le 43e sommet des dirigeants du G7. Le premier ministre Trudeau ira ensuite rencontrer le premier ministre italien à Rome et le pape François à la Cité du Vatican. Les sommets de l'OTAN et du G7 devaient déjà s'attarder au combat mondial contre le terrorisme qui a été un sujet de prédilection de Donald Trump. Des officiels et des experts s'attendent désormais à ce que les projecteurs soient tournés encore plus directement vers ce défi mondial à la suite de l'attaque kamikaze lundi soir à la sortie d'un spectacle à Manchester. Attaque qui a fait 22 morts et 59 blessés. Toujours dans le journal La Presse, une Albertaine accusée d'avoir menacé Sophie Grégoire Trudeau. La police a déposé des accusations contre une femme du sud de l'Alberta qui aurait proféré des menaces en ligne contre la femme du premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement canadien. Le caporal de la Gendarmerie royale du Canada, Al Turnbull, a indiqué que les enquêteurs avaient pu retracer le compte du réseau social et le lier à une adresse à Lethbridge, en Alberta. Les menaces auraient été faites à l'endroit du gouvernement canadien, mais aussi à l'endroit de la femme du premier ministre Sophie Grégoire Trudeau, selon la GRC. Les détails sur les menaces ou sur le réseau social n'ont pas été dévoilés. Il s'agirait de Lisa Seymour Peters, âgée de 49 ans. Donc, cette Albertaine a été arrêtée le 12 mai, selon la GRC, toujours. Au Québec, Philippe Couillard exclut des élections anticipées. C'est sous la plume de Martin Croteau dans le journal La Presse. Philippe Couillard a coupé court aux rumeurs mercredi en excluant la tenue d'élections anticipées. Il a dit ne pas vouloir profiter de la faiblesse de ses adversaires. Le prochain scrutin aura donc bel et bien lieu en octobre 2018, a affirmé le premier ministre Couillard, qui se trouve en mission économique en Israël actuellement. Si je déclenchais des élections maintenant, avec raison, on me taxerait de faire de l'opportunisme sur le dos des difficultés de mes adversaires, a-t-il déclaré. Ce n'est pas comme ça que je veux gagner l'élection, a-t-il ajouté. Je veux gagner l'élection sur ce qu'on aura fait pour le Québec et ce qu'on propose pour les prochaines années, a-t-il dit. Dimanche, rappelle le journaliste Martin Croteau dans cet article, les membres de la formation Québec solidaire, un parti politique de gauche, ont rejeté une alliance électorale avec le Parti québécois, consacrant du coup la division des partis indépendantistes de la province. Le résultat a forcé le chef péquiste Jean-François Lisée à réunir ses députés en pleine relâche parlementaire, mardi. Les rumeurs d'élections anticipées circulent depuis plusieurs semaines à l'Assemblée nationale. Le scénario est également évoqué dans les médias qui citent la conjoncture favorable au Parti libéral. Maxime Bergeron, toujours dans La Presse, écrit un article intitulé « Ottawa sort son chéquier pour la Saint-Jean-Baptiste ». Ottawa financera pour la première fois les festivités de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Après avoir refusé plusieurs demandes dans le passé, le gouvernement fédéral annoncera vendredi une subvention de 100 000 $ sans aucune condition rattachée, tandis qu'une série d'autres fêtes recevront aussi des fonds ailleurs au Québec. On a estimé que les fêtes nationales du Québec étaient admissibles au financement et elles y ont droit pour la toute première fois, a résumé à La Presse une source au cabinet de la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly. Outre la Saint-Jean qui aura lieu à Montréal, Ottawa financera aussi une fête organisée par Impératif français à Elmer, sur les rives de l'Outaouais face à Ottawa, au montant de 10 000 $. Au cabinet de la ministre Joly, on ne voit aucun problème à injecter des fonds dans une fête encore largement associée au mouvement souverainiste québécois. Je pense que dans les dernières années, le comité qui s'occupe de l'organisation a fait des efforts pour que ce soit le plus apolitique possible. C'est la fête de tous les Québécois, a déclaré le porte-parole du ministère patrimoine canadien. Même son cloche au comité de la fête nationale du Québec à Montréal, Louise Harel, première vice-présidente du conseil d'administration, a fait valoir que la subvention fédérale vise d'abord et avant tout à souligner la francophonie à Montréal et dans d'autres grandes villes canadiennes à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. On signale dans le journal La Presse le décès de la comédienne Nicole Leblanc. La comédienne Nicole Leblanc, bien connue pour ses rôles de Rosanna Saint-Cyr dans Le Temps d'une paix et Bella dans la série Cormoran, est décédée hier soir des suites d'une longue maladie. Elle était âgée de 75 ans. L'agence Goodwin, qui la représentait, vient de confirmer la nouvelle sur Facebook via un hommage intitulé « À la mémoire de Nicole Leblanc ». Née le 2 septembre 1941 à Maria, en Gaspésie, Nicole Leblanc a notamment participé à la création de la pièce de théâtre « Les belles-sœurs » de Michel Tremblay en 1968. On l'a ensuite vue dans cette autre pièce de Michel Tremblay, « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » en 1984. Au petit écran, le grand public l'a vue dans les téléromans « Quatre ennemis »,« Freddy » et « Virginie », ainsi que dans les séries « Apparence » et « Série noire ». Mais c'est évidemment dans le rôle de Rosanna Saint-Cyr dans Le Temps d'une paix qu'elle a connu son plus grand rayonnement. Donc l'article paraît sous le titre « Décès de la comédienne Nicole Leblanc », c'est dans le journal La Presse. Et on peut clore avec un portrait des adolescents de l'ère moderne dans l'hebdomadaire L'Actualité. Le nouveau mal des ados, c'est le titre de cet article signé par Chloé Machilo. En hausse constante depuis 15 ans, la détresse psychologique liée à l'anxiété chez les jeunes a pris les proportions d'une urgence médicale. Au banc des accusés, la réussite scolaire et les réseaux sociaux. Aux premières loges du théâtre de la vie des jeunes, les enseignants doivent apprendre aujourd'hui à composer avec l'anxiété d'un nombre croissant de leurs élèves et les accompagner dans la gestion de celle-ci. « Nous vivons dans une société de performance où les parents ont des attentes très élevées », a observé Marie-Claude Raté de l'école secondaire des Sentiers à Québec. Les jeunes somatisent régulièrement cette pression en maux de ventre ou de tête. Ils veulent aller aux toilettes ou s'absentent lors des évaluations. Joanne Grenier de l'école primaire Cœur-Vaillant à Sainte-Foy note aussi un manque de confiance plus répandu chez ses élèves qui cherchent à être rassurés, qui paniquent lorsqu'ils doivent exécuter une tâche seule et essuient quelques larmes si la note obtenue n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Donc voilà cet article qui est un petit peu dans la lignée de cet autre article qu'avait fait paraître L'Actualité sur la série télévisée de Netflix 13 Reasons Why, en français 13 raisons, sur le nouveau mal des adolescents. C'est sur ce portrait des adolescents d'aujourd'hui que se conclut cette revue de presse nationale pour les 24 et 25 mai. Le débrief, votre rendez-vous info quotidien, vous revient dans quelques instants avec la rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. Et cette nouvelle, la thématique francophone, paraît dans le fil de la presse canadienne. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Nomination de Madeleine Meilleur, des candidats au poste confient leur inconfort. Opacité, ingérence politique et conflit d'intérêts, le processus de nomination du commissaire aux langues officielles du Canada fait l'objet de plusieurs récriminations de la part d'une poignée de candidats l'ayant vécu de l'intérieur. La désignation de Madeleine Meilleur au poste de commissaire a créé des remous, surtout après que l'ex-ministre à Queen's Park, en Ontario, eut reconnu qu'elle avait contacté deux membres influents de la garde rapprochée de Justin Trudeau afin de leur signaler son intérêt pour l'emploi. Ces aveux de la libérale de longue date ont fait bondir les partis d'opposition à la Chambre des communes, mais également plusieurs personnes qui sont passées à travers le processus et qui ont accepté de partager leur expérience avec la presse canadienne sous le couvert de l'anonymat. D'abord, selon deux de ces candidats malheureux, même la firme de chasseurs de tête qui avait été embauchée par le gouvernement Trudeau pour trouver le nouveau commissaire aux langues officielles, le nom de cette firme, c'est Boyden. Cette firme a été prise de court en apprenant dans les médias, en même temps que tout le monde, que le choix s'était arrêté sur Madeleine Meilleur. On m'a déclaré à deux reprises que j'allais faire partie de la deuxième étape. On m'a signifié qu'on allait communiquer avec moi pour les prochaines étapes, relate un des prétendants au poste. Les semaines ont passé, puis la nouvelle est tombée. Et là, j'apprends la nomination de Madeleine Meilleur. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai manqué un téléphone? Raconte cette personne qui espérait succéder à Graham Fraser à la barre du commissariat. Une autre personne qui s'était rendue au second tour des entrevues corrobore cette information. J'ai parlé à quelqu'un de la firme Boyden et c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'eux aussi avaient été pris au dépourvu que normalement on leur faisait part de la recommandation. Ce même individu dénonce du même souffle la façon dont la seconde interview, un test psychométrique, a été menée. Il a été abasourdi d'être interrogé par le sous-ministre à la justice sur la façon dont il traiterait une plainte sur un dossier d'actualité qui tomberait vraisemblablement dans la cour de ce même ministère. Il y avait apparence de conflit d'intérêts dans le processus de sélection selon ce même candidat anonyme. La firme Boyden, quant à elle, n'a pas réagi aux informations véhiculées par les candidats malheureux au poste de commissaire aux langues officielles du Canada au moment de publier ses lignes mardi, écrit la journaliste de la presse canadienne Mélanie Marquis. Quant à la ministre du patrimoine canadien Mélanie Joly, elle n'était pas disponible pour une interview, peut-on lire dans cet article. Son attaché de presse, Pierre-Olivier Herbert, a transmis à la presse canadienne un courriel détaillant le processus de nomination où l'on apprend que la ministre Joly elle-même a interviewé les deux candidats retenus pour la ronde finale, une information que n'avait pas fournie Madeleine Meilleur lors de son témoignage au comité des langues officielles jeudi dernier. L'attaché de presse de la ministre a indiqué qu'une fois son choix arrêté, la ministre avait consulté les porte-paroles des partis de l'opposition pour obtenir leurs commentaires sur la candidature de Mme Meilleur. Le dévoilement de ces renseignements liés au processus fait suite à une demande formulée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui a réclamé samedi dans un communiqué des précisions sur le dit processus de sélection après avoir initialement accueilli favorablement l'arrivée de l'ancienne politicienne du gouvernement ontarien. La nomination de Madeleine Meilleur ne fait pas l'unanimité, surtout depuis qu'elle a reconnu avoir contacté le secrétaire principal du premier ministre, Gerald Butts, et sa chef de cabinet, Katie Telford, deux anciens collègues à Queen's Park de Madeleine Meilleur, pour leur signifier son intérêt pour le poste de commissaire. La désignation du commissaire aux langues officielles, un agent indépendant du Parlement, doit être avalisée par la Chambre des communes et le Sénat. Au bureau de Justin Trudeau, jeudi dernier, on a dit ne pas avoir l'intention de retirer la candidature que l'opposition considère encore comme partisane. Donc vous trouverez cet article dans le fil de la presse canadienne. Nomination de Madeleine Meilleur, des candidats au poste confient leur inconfort. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 24 et 25 mai de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Aujourd'hui avait lieu le Forum français pour l'avenir sur le campus de l'Université de Victoria, UVic. Notre journaliste Adrien Blanc était sur place. Bonjour Adrien.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
D'ailleurs, tu es toujours sur place, n'est-ce pas?
Oui, je suis sur la table ronde où on a tenu notre émission en direct de midi à 13h. Et je dis « on », mais en fait, c'était des élèves, des étudiants qui, pour beaucoup, parlaient à la radio pour la première fois. Ils ont entièrement animé l'émission par eux-mêmes.
Formidable. Donc, ceux qui ont écouté CILS sur l'heure du midi sont déjà très au courant. Ceux qui sont sur le retour à la maison en fin de journée, qui nous écoutent dans leur voiture, au travail ou à la maison, on va donner les principales informations autour de cet événement qui a été un succès, n'est-ce pas, Adrien?
Oui, visiblement, c'est ce que nous disait l'organisatrice. Elle était très contente. C'était la deuxième édition et visiblement, ça monte en puissance. Là, elle avait deux écoles principalement, l'école francophone Victor Broder et puis l'école d'immersion Hawk Bay, avec des jeunes très attentifs qui ont participé à des ateliers, qui ont fait le tour des 10 tables qui étaient tenues par des organisations communautaires et des institutions. Là, les jeunes, je sais pas si vous l'entendez, mais oui. Les jeunes sont dans l'auditorium à côté.
Il y a de l'ambiance.
Ils sont en train d'assister. Ouais, ils regardent un spectacle, en fait. Après le repas, ils sont allés regarder un spectacle du groupe Improtéine, qui sera aussi au Festival de la Francophonie.
Magnifique. Donc, l'enseignante en question, Dominique Gay, est juste à côté.
Ouais, elle est en face de moi, avec le casque sur les oreilles.
Bonjour, Madame Gay.
Bonjour.
Alors, comment avez-vous préparé vos élèves à cette journée unique?
Je pense que la principale chose que je leur ai dit, c'était qu'on sort le français de l'école. On va dans la communauté, on va rencontrer d'autres gens et puis on utilise le français.
Est-ce que les élèves sont demeurés dans leur rôle? Est-ce qu'ils ont suivi cette consigne?
Pour la majorité, oui. Je pense qu'ils passent une journée avec d'autres gens à utiliser la langue, oui.
Et quel était le but de cette journée pour vous et vos élèves, outre de bien sortir le français et de le faire entendre, le faire résonner?
De rencontrer d'autres gens dans la communauté qui parlent français, que ça soit une réalité, que ça soit pas juste quelque chose qui existe à l'intérieur des classes. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi et pour eux, je pense, de réaliser que ça existe. Il y a des gens ici à Victoria qui parlent français.
Est-ce que vous avez participé à des ateliers?
Oui, il y avait un atelier pour les profs ce matin qui était très intéressant. On a discuté de la réalité d'être prof de français dans une communauté anglophone et comment développer la fierté francophone avec les élèves.
Est-ce que il y a eu d'autres activités qui peuvent être mentionnées? Les élèves se sont prêtés à différentes activités. Est-ce qu'on peut les décrire un petit peu?
Il y avait deux ateliers principalement. Il y en avait un qui était sur la liberté d'expression et l'autre sur l'environnement. J'ai pas assisté personnellement à ces ateliers parce que j'étais dans l'atelier pour les profs.
Alexis, je peux dire que avec Charlotte, directrice de la radio, on a animé l'atelier liberté d'expression. C'était l'atelier de CILS FM. Donc on avait 2 fois 40 élèves. Sur la matinée. Et on avait apporté les micros de CILS et donc les jeunes ont pu s'amuser à s'interviewer entre eux sur cette question de la liberté d'expression.
D'accord. Alors, on les entend en arrière-plan exercer leur liberté d'expression, justement.
Charlotte est allée fermer la porte.
C'est magnifique. Alors, développer la fierté du français, c'est l'expression que vous avez employée, Dominique. Est-ce que cette fierté est fragile? Est-ce que cette fierté est précaire, selon vous?
Elle est surtout abstraite, je pense, dans la plupart des cas pour les élèves, ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager soit au Québec, soit en France, soit dans des communautés francophones. Alors, pour certains jeunes, c'est peut-être la première fois où ils rencontrent d'autres adultes, d'autres personnes avec qui ils peuvent affirmer leur identité bilingue et francophone, oui.
D'accord. J'ai passé une partie de mon adolescence en situation minoritaire en Ontario et ce que j'ai vécu dans les écoles là-bas, c'est le français dans la classe, mais l'anglais partout ailleurs. Donc, aussitôt que les élèves dont j'étais passaient le seuil et entraient dans le couloir ou allaient dans la cour de récréation, ça devenait l'anglais qui régnait en maître. Est-ce que c'est le cas ici à Victoria également?
Ben, surtout à l'école où j'enseigne, qui n'est pas une école entièrement francophone. C'est
Ah oui.
une école dans laquelle il y a un programme d'immersion. Alors, définitivement, en dehors de la classe, ça se passe en anglais. Oui.
Est-ce que vous trouvez que le français des élèves est souple, qu'il a, que les élèves ont un vocabulaire satisfaisant et qu'ils sont capables de former des phrases grammaticalement correctes?
Ben, ça varie beaucoup d'un élève à l'autre, mais oui, pour la plupart, ils se débrouillent assez bien. Hein. Ça fait depuis, pour la plupart d'entre eux, c'est depuis la maternelle qu'ils sont en immersion. Alors, ça fait plusieurs années.
Donc, ils peuvent soutenir une conversation en français, expliquer des concepts ou des idées, pas juste, par exemple, j'ai ouvert la fenêtre ou j'ai faim, j'ai froid.
Non. Heureusement qu'ils peuvent dire un peu plus parce que moi, j'enseigne au secondaire. Je serais pas mal découragée s'ils ne pouvaient pas dire j'ai faim, j'ai soif. Mais c'est sûr que ça varie. Il faut les encourager. Il faut les encourager à écouter du matériel authentique, à écouter la radio, regarder des choses culturellement significatives pour eux. Ça les aide, mais ça dépend de leur motivation personnelle.
Bien sûr. Est-ce que certains d'entre eux, par la suite, dans leur vie de jeune adulte, vont maintenir un intérêt pour la langue française, selon vous?
Absolument. Absolument. J'ai déjà des élèves qui veulent aller faire l'échange Explore au Québec cet été. D'autres élèves qui sont très fiers, qui vont aller voyager cet été en France, en Europe, quelque part. Alors, oui, il y a définitivement des élèves qui adoptent cette identité.
D'accord.
Bilingue et francophone.
Et le programme Explore, qu'est-ce que c'est, en quelques mots?
C'est un échange. En fait, ce que je pensais au programme Explore, mais je voulais parler du programme du YMCA, qui est un programme où les élèves vont travailler pendant 6 semaines, ils sont payés, ils participent à un tas d'activités, ils habitent dans des familles francophones. Alors, 6 semaines d'immersion.
Oui.
C'est un programme assez fantastique. Explore est un autre programme semblable où les jeunes peuvent aller au Québec et avoir des expériences authentiques.
Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui souhaitent faire des études supérieures en français, que ce soit dans un milieu francophone hors Québec, par exemple à l'université Laurentienne ou dans une université québécoise?
Probablement, j'ai pas de statistiques, mais je suis sûre que parmi eux, il y en aura quelques-uns qui vont vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience.
D'accord. Et peut-être quelques-uns ont un parent francophone par ailleurs. Est-ce que ça arrive, ça?
Oui, oui, absolument, absolument.
Formidable. Êtes-vous vous-même originaire d'un milieu francophone minoritaire?
Non, je viens du Québec. C'était français, français, français partout autour.
Oui. Et vous êtes arrivé
dans mon village, en tout cas.
D'accord. Oui. Et pour justement, puisqu'il y a le mot avenir dans le titre de l'événement qui s'est tenu aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer pour l'avenir, cet événement? Est-ce qu'on doit inclure encore plus de gens de la communauté francophile de Victoria? Est-ce qu'on doit continuer de le tenir sur le campus de l'Université de Victoria? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans cet événement, selon vous?
Ben, il y a toujours place à amélioration, mais je pense que le concept au départ est très efficace. Je pense qu'on pourra avoir encore plus de membres de la communauté francophone, des personnes de la GRAF, l'Association du Troisième Âge, et on pourrait peut-être inclure plus de francophones pour permettre aux élèves d'avoir plus de conversations avec des natifs, mais des francophones natifs. Mais je pense qu'au départ, c'est un bon concept qui marche très bien.
Magnifique. Adrien, aurais-tu quelque chose à ajouter?
Ben écoute, moi je vais te dire que c'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience de tenir la table de CILSFM en direct ici.
Oui.
Parce que vraiment on était au milieu de l'entrée du bâtiment, donc tous les jeunes ont pu nous voir, ils ont vu à quoi ressemblait une radio. Et je pense que ben, du coup ils ont pu comprendre qu'ici il est possible à Victoria de faire des activités en français et des activités amusantes, quoi.
On a des nouveaux auditeurs là, si je comprends bien.
Ouais, bah, plus que les auditeurs, des animateurs.
Oui.
Les nouvelles recrues.
Génial. Oui, on les invite bien sûr à passer à la station. On est toujours curieux de savoir quelles sont leurs activités, leurs projets, les plans qu'ils échafaudent pour l'avenir. Dominique Gay, enseignante au High School de Oak Bay, un grand merci pour ces informations sur le Forum français pour l'avenir qui s'est tenu aujourd'hui sur le campus de UVic.
Merci.
Et au plaisir. Et au plaisir de se revoir et de se réentendre à CILS prochainement. Merci à toi également, Adrien. Et on signale bien sûr à nos auditeurs que les interviews que tu as faites ce midi seront rediffusées dans ton émission Rendez-vous prochainement.
Dans l'émission Les Nouveaux Reporters, qui est faite par les étudiants des écoles francophones et francophiles de la Colombie-Britannique.
Oui, merci. Autant pour moi. Donc, nouveau reporter. Excellent. Donc, à très bientôt. On se retrouve pour parler de français et de francophonie à l'antenne de CILS. Merci. à l'instant le quatuor François Bourassa. Et plus tôt dans l'émission, on avait entendu l'auteur, compositeur, interprète Steffi Schock. Voilà, c'est déjà tout pour le débrief édition des mercredis 24 mai et jeudi 25 mai. Merci de nous avoir suivis dans cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous dis excellente soirée ou excellente journée si vous nous écoutez en rediffusion. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
I love how you hate the way I always say that you'll learn someday. I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. You're painting me pictures of Mrs. and Misters, and they're pictures I'd love to believe. That's the beautiful thing about princes and queens, and you being so young and naive. You say you're a man and you swear that you can be the world to me, but I've seen the world and I can't be the girl that I think. You beg me to listen to see what I'm missing. You're talking all Adam and Eve, and I'm tempted to try, but the problem is I am no longer so young and naive. You look like a face in the movies, your kiss is straight out of a dream. You treat me like I was a princess. What in the world is the matter with me? It's not that I'm jaded, but love, it's hard to see that at 19. I hear what you're saying about having faith, and you promise me you'll never leave. And I wish I didn't know better, but I'm not so young and naive.
Vous écoutez CILS FM 107.9 à Victoria.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage! Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Fisch pour la réalisation technique. Aujourd'hui, l'Odyssée du rythme vous emmène dans l'ère du New Orleans et du Dixieland. La Première Guerre mondiale.